Chapitre 2. 15 juin, Sorrente. Nous avons passé toute une semaine à Naples, puis comme il faisait très chaud dans le port et qu'une forte odeur de soufre empestait l'air, nous sommes venus chercher ici un peu de fraîcheur. L'amphisbène est ancré devant la plage qui porte le nom comique de Cocumella. De là, nous partirons demain ou après-demain pour continuer notre voyage. Notre prochaine escale, un peu longue, sera Palerme. Aujourd'hui, je vais passer la journée à revivre notre semaine napolitaine. À Naples, donc, nous avons mené une vie de promenade et d'excursion. Madame Bruvane, les Subani, Gernon, y ont pris part assez souvent. Quant à Antoine, il n'est descendu à terre qu'une fois. Cependant, je trouve que son état s'améliore. Dans cette seule promenade qu'il a faite, il m'a demandé de l'accompagner. Il était à peu près 5 heures du soir. Sur le quai, nous avons pris une de ces voitures cahotantes que décore le titre pompeux de Carrozzella et dont le cheval porte au frontal une plume de faisan. Dans cet équipage, nous avons fait un tour à travers la ville, conduit par un grand escogriffe qui faisait claquer furieusement son fouet. Naples, à cette heure, est chaude et poussiéreuse, sans compter que son dur pavé de lave est plutôt éprouvant. Malgré cela, Antoine a très bien supporté cette épreuve. Au retour, comme nous descendions la Via Toledo, il a fait arrêter la voiture pour faire quelques pas à pied. Tout en flânant, nous sommes arrivés devant un de ces magasins d'écailles et de corail, comme il n'en manque pas ici. Elles sont amusantes, ces boutiques. Toutes les nuances de l'écaille, de la plus brune à la plus blonde, y sont représentées, et on y trouve toutes les diversités, du corail, du rouge le plus vif au rose le plus tendre. J'ai demandé à Antoine la permission de faire là quelques menus achats. J'ai acheté une liseuse pour ma mère et quelques petites babioles pour Madame Subani et pour Madame de Lérins. Une assez belle fille nous montrait les objets à choisir. Antoine la regardait d'un air sournois et attentif. Quand nous sommes partis, il s'est brusquement retourné pour la voir encore. J'ai surpris dans son œil le regard brutal et convoiteur de l'Antoine d'autrefois. Allons, allons, le gaillard va mieux, et je crois qu'il commence à reprendre goût à la vie. Nous sommes montés un matin, Madame de Lérins et moi, à la chartreuse de San Martino. Pendant que notre voiture gravissait les pentes rondes, roides, qui mènent à la Certosa, Madame de Lérins semblait triste et absente. Nous avons fait presque tout le trajet sans parler et nous nous sommes promenés silencieusement dans le vaste cloître ensoleillé. Madame de Lérins s'est arrêtée devant les deux têtes de mort couronnées de lauriers qui ornent la balustrade du préau. Le petit musée installé dans la chartreuse n'est pas arrivé à la distraire de sa mélancolie, malgré les cocasses souvenirs de la vieille vie napolitaine, malgré les portraits de comédiens et de pitres, les tableaux de scènes populaires, malgré l'étonnant carrosse où Victor Emmanuel et Garibaldi firent à Naples leur entrée triomphale, malgré la délicieuse crèche aux 100 figurines costumées et peintures lurées. Au moment où nous allions nous en aller, le gardien nous a fait signe de le suivre. Il s'est dirigé vers une fenêtre qu'il a ouverte. Elle donnait sur un petit balcon. Madame de Lérins a poussé une exclamation de surprise joyeuse. Ce balcon était en suspens sur le vide. Accroché à la muraille à pic du vieux couvent, il dominait tout Naples avec ses clochers, ses toits, ses maisons, ses places, ses rues, son port. Naples ensoleillée, mouvante, vivante. Naples dont le murmure profond et turbulent parvenait jusqu'à nous dans une rumeur sourde et lointaine. Au sortir de ce cloître aux têtes de mort laurées et de ce musée de figures peintes, de vieilleries de poupées, cette vaste ville matinale, active, colorée, était comme un appel à la vie. Madame de Lérins s'était rejetée en arrière, comme prise de vertige et les yeux fermés. Et j'ai été sur le point, à cette minute, de la saisir entre mes bras, de porter mes lèvres sur ses yeux clos, de mêler ma voix à cette rumeur humaine qui montait jusqu'à nous, et de lui dire enfin mon amour, mon tourment, mon espoir. Mais le gardien s'est rapproché, et elle a brusquement quitté le balcon, tandis que je remettais à l'homme le pourboire qui l'attendait. Mais pourquoi ne veut-elle pas m'écouter ? Pourquoi semble-t-elle ne pas vouloir entendre l'aveu de mon amour ? Hélas, je tremble de trop comprendre les raisons de cette attitude. Il y a un sujet qu'elle ne veut pas me laisser aborder. Et il en est ainsi, hélas, parce qu'elle est bonne, parce qu'il lui en coûte peut-être d'avoir à me désespérer, de me dire que jamais elle ne m'aimera, que jamais elle ne sera à moi. Mais alors, pourquoi est-elle venue sur ce bateau ? Pourquoi a-t-elle accepté de prendre part à cette croisière qui devait nous mettre côte à côte pendant de longues journées ? Pourquoi aussi, parfois, a-t-elle l'air de m'attirer vers elle, par un geste, par un regard ? Et cependant, elle n'est ni cruelle, ni coquette. Je l'ai toujours trouvée franche et loyale. Si je lui déplaisais, elle ne m'aurait pas permis depuis 4 mois d'être le compagnon assidu de ses promenades. Parfois, depuis le commencement de ce voyage, il me semble qu'elle me considère avec une nuance particulière d'attention et d'intérêt. On dirait qu'elle m'observe, qu'elle m'étudie. Elle cherche à connaître mes goûts, mes idées sur la vie, ce qu'elle ne faisait jamais auparavant où nous en tenions un ton de camaraderie un peu superficiel. Qui sait d'ailleurs si elle s'est même aperçue de mon amour, de mon silencieux amour ? J'ai reçu une lettre de Yves de Kerambel qui m'annonce la mort de la tante Guidique. La pauvre dame est trépassée le lendemain de mon départ pour Marseille. Il hérite d'une 30 000 livres de rente et d'un beau domaine en Algérie, dont l'étrange douairière avait caché soigneusement l'existence à son neveu. Le monde est vraiment plein de gens bizarres. Ma mère m'a écrit aussi une longue et tendre lettre. De son étroite vie provinciale, elle est heureuse de me savoir en ces beaux pays. Il en est un bien plus beau, ma mère, celui de l'amour et du bonheur. Mais dans celui-là, y entrerai-je jamais ? Suis-je de ceux qui parviendront à enforcer les portes d'or ? Durant notre semaine napolitaine, nous sommes allés naturellement visiter Pompéi. J'ai été quelque peu déçu. Certes, Pompéi est un lieu unique en son extraordinaire conservation détruite, si l'on peut dire, mais Pompéi, il faut bien le reconnaître, est d'un pittoresque médiocre avec ses rues régulières que bordent des maisons pareilles. Certaines de ces maisons sont pourtant intéressantes et elles t'aident à évoquer les vies lointaines qui les habitèrent. Certaines sont encore ornées de fresques demeurées vivantes sous leur enduit préservé. L'une d'elles, celle des Vétilles, garde encore un aspect presque intact, avec ses chambres peintes qui ouvrent sur une cour intérieure plantée de fleurs gracieuses. Mais ce que j'ai le mieux aimé de tout Pompéi, c'est une fontaine. Elle est située à un petit carrefour. Elle se compose d'une simple cuve de marbre où l'eau se déverse par la bouche d'un masque sculpté. Je l'aime, cette fontaine, parce que j'ai vu Madame de Lérins se pencher sur elle et d'un geste charmant caresser le mufle usé de l'antique mascaron. Nous étions seuls à ce moment. Madame Bouvan et Gernon s'étaient écartés de nous. Les Subani étaient restés en arrière pour écouter les explications du gardien. Nous étions seuls. Le vieux masque semblait sourire sous la caresse de cette main légère. J'ai profité de l'absence de nos compagnons pour emmener Madame de Lérins du côté de la voie des tombeaux. Elle est à un des bouts de la ville et se perd dans les champs. Les monuments funéraires qu'il aborde n'ont rien de bien remarquable, mais ils ont cette mélancolie qui manque tant aux ruines de Pompéi, ruines trop précises, trop sèches, trop didactiques. Aussi de Pompéi n'ai-je aimé vraiment que son humble fontaine et ses mausolées à demi détruits. Au soubassement de l'un d'eux, nous nous sommes assis, Madame de Lérins et moi. Avec sa robe aux lignes simples, avec son large chapeau de paille garni d'épis de blé, elle était assez semblable aux petites romaines des fresques. Comme elle, elle portait l'ombrelle ronde. Elle était assise à la même place où avait dû s'asseoir plus d'une petite pompéienne de jadis, qui maintenant ne sont plus qu'une pelée de cendres au creux d'un moule de lave. Et je regardais avec tristesse la promeneuse d'aujourd'hui. N'est-elle dans ma vie qu'une image passagère, que l'oubli recouvrira un jour? La destinée nous a-t-elle réunis un instant que pour nous séparer à jamais? Nous quitterons-nous comme deux étrangers dont les pas n'ont fait que se croiser une minute? Nous serons-nous rencontrés à la fontaine du carrefour, à la fontaine que décore un masque ironique et fruste, à la fontaine dont la cuve vide ne reflète pas les visages, à la fontaine où l'on ne boit pas? À cette pensée, mon cœur s'est serré d'angoisse. Et cependant, même s'il en devait être ainsi, aurais-je le droit de me plaindre? Quoi qu'il arrive, n'aurais-je pas au moins un instant connu la figure de l'amour et du bonheur? Pendant que je songe ainsi, un lourd silence pèse sur la ville déserte. Seul le cri strident des cigales déchire l'air immobile. Ce sont comme mille petites limes de bruit qui travaillent invisiblement à disjoindre et à effriter les vieilles pierres. Soudain, l'innombrable concert semble se taire et nous entendons les voix proches de Madame Bruvan et des Subagny que domine le fossé de Gernon. Ils ne nous ont pas aperçus et s'éloignent dans une autre direction. Madame de Lérins a souri. Puis nous nous sommes levés pour continuer nous aussi notre promenade. Tout en rôdant à travers les voies pompéiennes, Madame de Lérins et moi, nous avons parlé assez longuement de Gernon. Comme à moi, il lui apparaît ainsi qu'un étrange personnage. Ce savant est vraiment un être falot. Depuis qu'il voyage sur le yacht de Madame Bruvan, ce vieux fou s'est avisé de dépouiller sa personnalité d'homme de science pour en revêtir une d'homme du monde. Au lieu de demeurer l'érudit qu'il est et qui serait après tout une compagnie supportable, car il a du mérite dans sa spécialité, il affecte de faire le gentil, le coquet et le galant. Oui, Gernon fait le joli cœur avec les dames. Si Feller voyait cela, quelle joie ce spectacle lui causerait et quel regard il aurait sous ses lunettes. Et il faut voir comment Gernon s'acquitte de ce rôle. Les Subagny eux-mêmes, qui le connaissent de longue date, en sont stupéfaits. On leur a changé leur Gernon. Antoine, moins patient et que Gernon agace, le rembarre assez rudement. La bonne Madame Bruvan, qui avait une sincère admiration pour les livres de Gernon, est un peu déconcertée de ses manières. Elle, qui s'attendait de la part du bonhomme à des conversations instructives et sérieuses, elle qui se réjouissait de visiter les lieux fameux de l'Antiquité en compagnie d'un homme compétent et informé, De quelle galanterie saugrenue a-t-il su assaisonner cette promenade à Pompéi? Nous avons eu la chance, Madame de Lérins et moi, de pouvoir nous isoler. Il est vrai qu'au retour, il nous a fallu subir les madrigaux qu'il prodiguait et qu'il accompagnait de son rire aigu et satisfait. Nous sommes retournés plusieurs fois au musée, Madame de Lérins et moi. Nous aimions errer parmi ce peuple de statues, mais toujours invinciblement nous revenions à la salle des bronzes. Par leur matière souterraine et brillante, ils nous charmaient en même temps qu'ils nous fascinaient par le rythme de leurs mouvements. La dernière fois où nous vîmes admirer la nocturne beauté de ces héros de métal, nous avions encore les yeux enivrés de leurs formes sombres, quand, en traversant une des galeries, nous fûmes attirés par la clarté d'une fenêtre ouverte. Elle donnait sur une cour violemment ensoleillée, fermée par un haut mur. Il y avait dans cette cour des débris de sculptures, des fragments de statues et au pied du mur, une rangée de grandes jarres en terre cuite, rouge et jaune. Bombées, pansues, on eût dit d'énormes fruits ou des œufs monstrueux. Et ce vieux mur, ces jarres d'argile gonflées au soleil, me donnait tout à coup, au sortir de ce réel et pur monde grec dont nous venions de quitter les nobles et solides fantômes de bronze, une brusque impression d'Orient et de mille et une nuits. Durant ces deux semaines de Naples, nous avons retrouvé, Madame de Lérins et moi, nos allures de camaraderie. Mais cependant, cette sorte d'hypocrisie d'amitié me devient intolérable. Chaque jour, je me jure que c'est le dernier où j'accepte l'équivoque où nous vivons. Et chaque jour, pourtant, je remets au lendemain l'aveu qui me brûle les lèvres, cet aveu dont j'ai imaginé 100 fois la scène, dont je me suis répété 100 fois les paroles, mais que j'hésite à prononcer, parce que je suis lâche, parce qu'un modèle peut anéantir mes rêves. Pourtant, cette Naples voluptueuse et ardente devrait m'encourager. Cette Naples où le soir autour du yacht, l'amour vient chanter ses chansons au balancement des barques pleines de voix et de musique. L'autre soir, après le dîner, nous étions assis sous la tente, Madame de Lérins, Antoine et moi. Madame Ruvan, les Subani et Gernon, fatigués d'une promenade au Cap Misaine, étaient allés se coucher. Antoine avait allumé un cigare. C'était le premier qu'il fumait depuis sa maladie, et cet exploit le mettait de fort bonne humeur. Tout à coup, en lâchant une bouffée de fumée, Antoine m'a dit « Ma foi, tu avais raison, c'est un gentil garçon que notre second Bertin. Je suis allé causer avec lui cet après-midi, mais quel drôle de type! J'ai voulu lui faire raconter ses plaisirs napolitains. Ça doit aimer les femmes, ces marins. Mais, basta, celui-là ne me semble pas un coureur. Cependant, il va presque tous les soirs à terre. Alors, je pensais qu'il prenait bien quelques petites distractions. Pas du tout. Ce brave Bertin se borne à se promener sentimentalement sur la Kiaïa. Et comme je le taquinais sur sa continence, voici mon gaillard qui rougit jusqu'aux oreilles et qui finit par m'avouer qu'il est amoureux d'une petite cousine avec qui il est fiancé et que depuis lors, il n'a pas regardé une femme. Comprends-tu cela, Julien? Aimer une femme et s'abuser avec une autre, mais cela n'a jamais eu aucune importance. Faut-il que les hommes soient jobards pour se créer ainsi des complications inutiles? » Avant que j'eusse pu répondre à Antoine, la voix de Madame de Lérins s'éleva. « Eh bien, permettez-moi de vous dire que vous vous trompez, cher monsieur Hurtin. Ces complications, comme vous les appelez, ne sont pas inutiles, et monsieur Bertin n'a pas tort de respecter son amour. » Cela prouve qu'il y a plus d'hommes délicats que vous le pensez. Ainsi, moi, je connais des gens très capables de renoncer à un caprice qui s'offre à eux parce qu'ils ont pour quelqu'un d'autre un sentiment qui leur tient au cœur. Vous trouvez cela comique et ridicule? Pas moi. Je trouve cela gentil, très gentil. Et si pareille chose se produisait à mon sujet, j'en serais extrêmement touché. » À cette déclaration de Madame de Lérins, Antoine s'est mis à rire d'un air goguenard et incrédule. Quant à moi, j'ai ri aussi pour cacher mon trouble. Madame de Lérins voulait-elle faire allusion à l'histoire de Madame de Gersainville? Madame de Gersainville lui a-t-elle raconté comment s'est terminée sa visite chez moi? Oh, ses pensées m'ont agité pendant toute la nuit. Sorrente, 17 juin. C'est notre dernière journée de Sorrente. L'amphisbème doit lever l'ancre demain dans la matinée. Madame Bruvan, les Subagis et Germont sont allés faire une promenade en voiture, et Madame de Lérins s'est jointe à eux. Moi, je suis resté à bord. J'étais fatigué et nerveux. Au lieu de demeurer sur le pont, je suis descendu dans ma cabine. J'ai fermé les rideaux des hublots et je me suis étendu sur mon lit. Comme il faisait très chaud, j'ai fait marcher le ventilateur. Cette sorte de petite hélice aérienne m'amuse. Elle est placée à un angle de ma cabine où elle bourdonne avec une activité inutile. Elle tourne éperdument. Elle ne procure même pas une réelle fraîcheur. Elle ne produit qu'une brise superficielle, factice. Elle est mobile et immuable. Le spectacle de sa vitesse m'intéresse et m'abrutit, me plonge dans une vague torpeur, m'hypnotise dans une pensée toujours la même. Il me semble que cette aile vibrante s'agite dans ma propre cervelle et je reste là, inerte, anéanti, stupide. Il y a en amour de ces moments de prostration où le ressort de l'âme se relâche, se détend, où l'on voudrait ne plus songer à rien, où l'on accepterait les distractions les plus saugrenues. Instant de veulerie, de paresse, de lassitude, de découragement, où le but à atteindre vous paraît trop difficile, trop incertain. On voudrait trouver des prétextes de renoncement. On se dit qu'on a eu tort d'espérer. On voudrait se terrer dans quelque coin, perdre conscience de soi-même, devenir une chose insensible. Oh, être cette aile de métal qui s'étourdit de sa vibration, ou cette antique jarre d'argile qui, dans la cour du musée, se craquelait lourdement au soleil. Ce ne sont pas seulement de tels souhaits qu'ils nous suggèrent ces moments de cruelle dépression sentimentale. Ils nous donnent des conseils plus perfides et plus dangereux. Et si, une fois le but atteint, une fois notre vœu réalisé, nous nous apercevions que ce n'était pas là où nous devait conduire notre véritable destinée, si nous découvrions alors tout à coup que nous avons fait fausse route, que nous n'avons suivi que le plus décevant des mirages et que nous avons laissé la proie pour l'ombre. Et soudain, vivement, inopinément, j'ai repensé à Madeleine de Gersainville. Pourquoi donc ai-je refusé ce qu'elle m'offrait, ce don naïf et spontané qu'elle me faisait d'elle-même? Qui a raison, d'Antoine ou de Madame de Lérins? Et puis cette Madeleine de Gersainville, qui sait si je ne l'eusse pas aimée? Quelquefois, le plaisir mène à l'amour. Certains caprices se changent en passion durable. Et voici que je me sens pris, pour cette femme à peine entrevue, d'un étrange désir rétrospectif. Mais bientôt j'ai compris que ce désir, ce n'est pas elle qui me l'inspire. Elle n'est qu'une image superposée, un léger fantôme voluptueux, qui bientôt se dissipe et s'évanouit, et à travers duquel apparaît Madame de Lérins. Ah, lourd, lourd, j'ai beau souhaiter l'oubli, j'ai beau créer des objections contre mon amour, me laisser aller aux insinuations de ma lâcheté. Vous cherchez des rivales passagères, mais c'est vous que j'aime de toute mon âme anxieuse, de tout mon cœur incertain. Il était près de 6 heures quand je suis remonté sur le pont. Le soleil était moins ardent et l'air semblait s'être allégé. Comme Antoine était plongé dans un livre, je suis allé causer avec M. Bertin. Pourquoi le canot qui devait ramener à bord Mme Bruvan et Mme de Lérins, les Subaniers et Gernon, tardait-il ainsi? Je commençais à m'inquiéter quand je l'aperçus, ayant quitté la terre et se dirigeant vers l'Amphisbène. Comme il accostait à l'échelle, Mme de Lérins, en riant, m'a lancé d'en bas une grosse boule dorée que j'ai rattrapée au vol. C'était un énorme citron qu'elle avait cueilli durant sa promenade. Et je le considérais entre mes mains, fermé, mystérieux, odorant, comme une promesse de bonheur. Ô beau fruit d'or des Hespérides, si ton écorce trompeuse ne cachait qu'une cendre amère. 18 juin en mer. En quittant Sorrente, nous ne nous sommes pas arrêtés, comme nous le devions, à l'île de Capri. Antoine, sans prendre l'avis de Mme Subagny ni de Mme de Lérins, a donné l'ordre au commandant de faire route directement sur Palerme. La pauvre Mme Bruvan n'a rien osé dire, et il nous a fallu subir cette lubie inexplicable. D'ailleurs, Antoine, qui depuis une semaine semblait véritablement mieux, et depuis 2 jours redevenu fort sombre et de fort méchante humeur. Il a l'air de nous en vouloir à tous, alors il nous a privés de Capri. Pour ma part, j'avoue que cette privation m'est assez indifférente. Que m'importe quelques paysages de plus ou de moins? Toutes mes pensées ne sont-elles pas prises par un seul songe? Tous les aspects de la mer et de la terre ne valent pas pour moi ceux d'un visage. Antoine peut bien régler à sa guise les escales, ce n'est pas pour moi qui protesterai. Madame de Lérins seule m'occupe. Tout à l'heure, je la regardais. Elle était accoudée sur la lisse. Je contemplais la ligne souple de son dos, sa nuque fraîche sous l'ombre d'un grand chapeau, ses beaux bras nus hors des manches courtes, et j'éprouvais à la voir ainsi une langueur inexprimable. Elle est restée longtemps immobile. Mais à quoi réfléchissait-elle, ainsi pensive? 2 matelots ont passé derrière elle, pieds nus, en leur costume de toile, et l'un d'eux s'est retourné pour lui lancer un regard naïvement admiratif. D'ailleurs, cette admiration, je la lis dans les yeux de tous les hommes de l'équipage. Je la retrouve chez le gentil M. Bertin comme chez le grincheux M. Lamondon. On doit parler de Mme de Lérins au carré des officiers comme au poste des matelots. À cette idée, j'éprouve comme une espèce de gêne irritée. Cependant, cette attention universelle s'explique. Mme de Lérins est la seule femme du bord. L'excellente Mme Bruvan est d'un physique et d'un âge canonique. Mme Subagny est dans le même cas. Il est donc naturel que l'image de Mme de Lérins hante la pensée de tous ces hommes. Il est inévitable qu'ils commentent entre eux sa grâce et sa beauté. Inévitable, certes, oui, mais il n'est pas moins vrai que, presque sans m'en rendre compte, je suis jaloux de ces inconnus. C'est peut-être ridicule, mais c'est ainsi. Et Antoine, ne suis-je pas aussi, par minute, jaloux de lui? Parfois, ma vieille rancune se réveille sourdement. Je me souviens de ses procédés de jadis, de sa perfidie. Alors je me demande si je ne suis pas dupe de quelque manigance de sa part. Pourquoi m'a-t-il raconté que c'était lui qui avait fait inviter sur le yacht Mme de Lérins? Pourquoi m'a-t-il présenté cette invitation comme une sorte de réparation de sa conduite passée? Qui sait s'il n'est pas amoureux de Mme de Lérins Et si mes confidences ne sont pas un moyen de détourner mes soupçons? Qui sait aussi si ce n'est pas à cause d'Antoine que Madame de Lérins a accepté d'entreprendre ce voyage? Certes, en ce moment, Antoine est malade, mais il n'en est que plus influençable. Or, Madame de Lérins est divorcée, et rien ne prouve qu'elle n'ait pas le désir de refaire sa vie, qu'elle ne songe pas à se remarier un jour, et à se remarier richement. Antoine est un beau parti. Madame Beauvan est fort riche, et elle approuverait sûrement qu'Antoine se décidât à se ranger et à adopter une existence régulière que nécessite son état de santé. Et lui, ne proclame-t-il pas bien haut le dégoût que lui inspire la vie qu'il a menée jusqu'à présent? Et cependant, à certains moments aussi, toutes ces méfiances me semblent superflues. La veille encore de notre départ de Sorrente, il m'a tenu des propos qui m'ont paru alors significatifs et qui ne laissent guère lui supposer les projets que je lui prête. J'étais allé le matin dans sa cabine pour prendre de ses nouvelles, car la veille au soir, il s'était plaint d'être très fatigué. Je l'ai trouvé encore couché avec sa figure des mauvais jours. Il m'a longuement reparlé de sa maladie et des changements qu'elle avait produits en lui. Aussi, s'il guérissait, il comptait vivre le moins possible à Paris. Il demanderait à sa tante Brivanne de lui acheter une propriété en Touraine ou en Normandie. Là, il mènerait une existence strictement hygiénique. Je lui ai objecté que cette existence de cénobite, pour laquelle il n'était guère fait, lui deviendrait vite à charge et qu'il ferait bien mieux de vivre raisonnablement à Paris. Bien ces mots, il s'est presque mis en colère. Décidément, je ne comprenais donc rien à son état. Je ne voyais donc pas qu'il était un homme fini, rasé, et que même s'il se rétablissait à peu près, il demeurait une espèce d'infirme, tenu à toutes sortes de précautions. Certainement non, il ne resterait pas à Paris, sans pouvoir y plus rien faire de ce qu'il aurait aimé. Paris, sans sport, sans théâtre, sans souper, sans femme, non, par exemple. Maintenant, tout cela lui était bien égal, mais en serait-il toujours ainsi? Oui, pour le moment, les femmes lui faisaient horreur. L'idée de toucher une peau, de tenir un corps entre ses bras, lui était insupportable. Je l'ai écouté avec un certain plaisir. Il semblait sincère en parlant ainsi. 19 juin, en mer. Nous avons longé la côte d'assez près. Elle est mollement et pittoresquement montagneuse et tombe presque à pic dans la mer. Ça et là, on aperçoit quelques petits ports blottis à l'abri du rocher ou quelques villages perchés sur son flanc. Devant Amalfi, nous nous sommes arrêtés quelques heures, le temps de descendre à terre et de visiter l'antique cathédrale. À partir de Salerne, la côte s'abaisse et s'aplatit. La montagne s'éloigne du rivage et laisse à découvert des espaces marécageux. Ce matin, nous étions devant Paestum. Antoine, un peu rasséréné, a de lui-même proposé à Madame de Lérins d'aller visiter les temples. Madame Beauvan, les Subagis et Germont manifestèrent l'intention de se joindre à nous. Gerdon, d'ailleurs, sans enthousiasme. Les monuments de l'Antiquité ne semblent nullement l'intéresser. Gerdon est un homme de bibliothèque, un érudit en chambre. Le canot de l'Amphisbène nous a déposé sur une grève grise et plate. Devant nous, à quelque distance, s'élèvent les temples. Ils se détachent sur un fond de montagne bleuâtre. Un petit chemin nous y conduit entre deux haies. Le lieu a un aspect insalubre et mélancolique. Le sol est humide, l'air est lourd et fiévreux. Madame Beauvan, les Subagis, Gernon s'avancent lentement. Monsieur et Madame Subagny marchent, abrités par le même parasol. Madame de Lérins et moi prenons les devants. Le soleil darde, on respire une odeur de vase sèche et d'herbes chaudes. Des papillons voltigent, des mouches bourdonnent. C'est le seul bruit de cette solitude, avec derrière nous le sourd déferlement de la vague sur le rivage désert et malsain. À mesure que nous approchons, les temples grandissent et dressent plus haut leurs colonnes de marbre jaune. Un sentiment de majesté, de vieillesse et de désolation émane de leurs ruines énormes, qui conservent encore cependant une harmonie souveraine, un aspect monumental et victorieux. Parmi les dalles disjointes à la base des colonnes poussent de grandes acanthes qui recourbent la volute architecturale de leurs feuilles. Devant cette morne magnificence, devant cette haute vision du passé, Madame de Lérins et moi, nous nous sommes regardés silencieusement, tandis qu'au ciel lourd tourbillonne un vol de corneilles criardes que notre venue a dérangé. En vérité, je suis moins ému que je n'eusse cru de devoir être. Depuis trop de jours, je vis en présence de trop de beauté pour que les plus beaux spectacles m'en puissent distraire. Que les paysages étendent leurs lignes, que les villes m'offrent leurs aspects, que le ciel et la mer combinent leurs plus éclatantes couleurs, que ces temples dressent devant moi leurs colonnes et leurs frontons, ma pensée ne leur appartiendra pas tout entière. J'échappe à leur prestige, je résiste à leur attrait. Ô Paestum, refleurirais-tu tes mille roses? Elle ne voudrait pas le contour de telle bouche silencieuse et énigmatique. Ô Lourdes, il n'est pas de pays qui vaille la grâce de ton visage. Il n'est pas d'architecture à qui n'équivaille la structure de ton corps charmant. Il n'est pas de couleur plus harmonieuse que la couleur de tes yeux. En vain on déploierait à mes regards toutes les terres et toutes les mers. Mes regards s'en détourneraient dédaigneusement à l'appel de ta voix. Ô Lourdes de Lérins, le bruit de ton pas, le frôlement de ta robe dans les herbes sont pour moi comme le murmure et le frisson des pas et des ailes de l'amour. Mais hélas, l'amour viendra-t-il jamais vers moi, ou n'en concevrai-je dans ma mémoire qu'une très grâce fuyante et qu'un insaisissable écho? 20 juin, Palerme. L'amphisbène est ancré dans la rade de Palerme. Ce matin, nous avons assisté à un véritable coup de théâtre. À l'heure du déjeuner, nous étions réunis dans la salle à manger. Seul Gernon se faisait attendre. Antoine commençait à s'impatienter, car il avait faim, ce qui, malgré ses doléances, est un excellent présage. Madame Bouvan allait envoyer le steward s'enquérir de ce que devenait M. Gernon, quand nous le vîmes apparaître sous les aspects d'un personnage extraordinaire dont la venue fut accueillie par une exclamation unanime. Certes, c'était bien M. Gernon que nous avions devant les yeux, mais un M. Gernon, subitement transformé, comme si une fée des contes l'eût malicieusement touché du bout de sa baguette. M. Gernon ne portait plus son antique vareuse bleu marine, ni ses pantalons de toile blanche. Il était vêtu d'un superbe complet vert, dont la veste était ornée de brandebourgs de couleur pistache et d'une culotte qui bouffait sur des bas de cycliste également verts et mouchetés de jaune. Au lieu de son redoutable casque colonial, il arborait un feutre d'émeraude de la plus pure forme tyrolienne, relevé d'une coquette plume de paon. À son cou était nouée une cravate jaune serin, du meilleur goût germano-napolitain. Sous cet accoutrement, monsieur Germain avait un petit air modeste et satisfait, et il recevait le compliment avec une souriante majesté. Voyant le bon effet qu'il produisait, ce succès lui délia la langue et il nous apprit qu'il avait profité de son séjour à Naples pour renouveler un peu sa garde-robe. C'était là qu'il avait jeté son dévolu sur cette étonnante défroque, sans doute laissée par quelques touristes allemands. Ah, monsieur Gernon s'entendait aux surprises. Tandis que nous le félicitions, avec une ironie dont il ne s'apercevait pas, sur sa nouvelle élégance, monsieur Gernon coulait de tendres regards vers la pauvre madame Bruvan, qui faisait de son mieux pour dissimuler son embarras. Il était visible, d'après les mines de Gernon, que c'était à l'intention de madame Bruvan qui s'était mise en frais. Après déjeuner, lorsque Gernon se fut retiré dans sa cabine pour y desserrer le nœud de sa belle cravate jaune qui l'étranglait, Antoine a taquiné sa tante sur l'amour qu'elle a inspiré à Gernon, car il prétend que Gernon est fort épris. Madame Bruvan s'est défendue de son mieux, mais je me demandais si, au fond, elle n'est pas flattée des hommages de ce vieux fou.
22 juin.
Madame Bruvan, qui l'a bonté même, a proposé à Gernon et au Subagny d'aller avec elle prendre le thé à la Villa Aguilera pendant que madame de Lérins et moi nous visiterions les monuments et les curiosités de Palerme, où nous ne resterons pas longtemps, car Antoine prétend que le séjour dans les ports l'ennuie et le fatigue. Ce qu'il aime, c'est la navigation en mer, les longues journées entre le ciel et l'eau, le doux balancement, la sourde trépidation du navire en marche. Il ne veut pas descendre à terre, et nos promenades l'agacent, surtout que madame de Lérins et moi ne les faisons pas en compagnie de madame Bruvan, des Subagny et des Gernon. Cette mauvaise humeur indéniable d'Antoine envers tout ce qui me rapproche de madame de Léris me rend mes soupçons à son égard. Quant à elle, elle montre pour Antoine assez peu de sympathie. Elle est avec lui polie et réservée, rien de plus. Quelle singulière gens que ces Subagny! Toute la vie de M. Jules Subagny a été dominée par un fait, et ce fait, c'est que M. Subagny a ce que l'on appelle une tête de médaille. M. Subagny, en effet, a le visage fort régulier, le nez droit, les yeux grands, la bouche bien dessinée. M. Subagny ressemble assez à un effort grec ou à un proconsul romain. Il a été fort beau et l'est encore. Cette beauté classique lui a valu, à 22 ans, la bonne fortune d'être demandé en mariage par Mademoiselle Le Bléru, la fille du grand entrepreneur de maçonnerie. Le jeune Subagny était pauvre et employé dans les bureaux de la ville de Paris. Mademoiselle Le Bléru n'était pas laide, elle était fort riche. Aussi M. Subagny accepta-t-il l'aubaine qui s'offrait à lui. À partir de ce moment, M. Subagny n'eut plus d'autre occupation que celle de se laisser admirer. Mademoiselle Le Bléru, en l'épousant, réalisait son rêve de beauté masculine, mais ce rêve, elle entendait bien le rendre aussi durable que possible. Aussi, M. Subagny fut-il astreint à un régime incessant et sévère, à des soins minutieux et quotidiens, sous la surveillance impitoyable de l'attentive et amoureuse madame Subagny. Si madame Subagny faisait assez bon marché de sa figure, de sa taille à elle, elle imposait à son mari les pratiques d'hygiène et d'esthétique les plus minutieuses. Tout dans la vie de monsieur Subagny était subordonné à une seule obligation, celle d'être et de rester beau. Cette beauté physique de M. Subagny, madame Subagny l'épie d'heure en heure, et depuis 40 ans, avec un inlassable intérêt, depuis 40 ans, M. Subagny se soumet docilement aux exigences de sa situation. Il en a pris son parti, et même il y a pris goût. Il accomplit strictement les prescriptions qui lui sont imposées. Il surveille sa nourriture, exerce ses muscles, soigne sa peau et ses cheveux d'après les recettes qu'il a recueillies auprès des spécialistes. Il les a tous consultés, et de l'ensemble de leurs ordonnances, il s'est fait un code qu'il observe sans faiblesse et sans défaillance. D'ailleurs, Madame Subagny est là pour le rappeler à l'ordre et pour le maintenir dans le respect des préceptes grâce auxquels M. Subagny peut toujours offrir à l'admiration conjugale sa magnifique tête de médaille. Et cette admiration encore eut pour M. Subagny un autre effet. Le temps qui ne passe pas à sa conservation physique, il emploie le plus communément à faire reproduire par tous les moyens connus son effigie. Madame Subagny le guide également dans cette occupation. M. Subagny est le meilleur client des peintres, des sculpteurs, des graveurs et des photographes contemporains. Le nombre de bustes, de portraits, de plaquettes, de clichés que l'on a exécutés d'après lui est invraisemblable. M. Subagny a été plus peint, modelé, reproduit qu'un président de la République ou qu'un acteur en vogue. Son iconographie est considérable, et Madame Subagny en est fière. Quant à M. Subagny, il se prête avec plaisir à ces hommages rendus à sa personne. Il en a tellement l'habitude qu'instinctivement, même dans les circonstances les plus usuelles de la vie, il prend la pose. Le plus curieux, c'est qu'en somme, il n'a aucune vanité et qu'il est au demeurant le meilleur homme du monde. En soignant sa beauté, il s'acquit d'une fonction. Il s'en acquit en conscience et sans fatuité. Que voulez-vous, physique oblige. Il supporte patiemment les plaisanteries de l'insupportable Gernon. Ils ont été camarades de collège. Gernon en profite pour déclarer à Madame Subagny que dans ce temps-là, M. Subagny ne ressemblait pas du tout à un antique, tandis que lui, Gernon, attirait l'attention des mamans au parloir par l'exquise fraîcheur de son teint. 25 juin, en mer. Enfin, je lui ai parlé. Elle sait maintenant mon amour. Ce fut hier. Après nous être promenés l'après-midi dans Palerme avec nos compagnons de voyage, nous les avons quittés, Madame de Lérins et moi, pour monter jusqu'à Montréal. Pendant qu'ils retournaient au yacht, nous avons pris une voiture pour faire cette course hors de la ville. On traverse d'abord un long faubourg populeux, sans grand caractère, où des polissons en guenilles nous saluent de leurs cris et de leurs gambades. Puis bientôt, la route commence à s'élever en lacets. De belles verdures, de frais jardins l'abordent, des villas pittoresques et baroques. Ça et là, le long du chemin, des fontaines coulent en des bassins d'un curieux style rococo. L'air est doux et tiède, un air un peu las, un peu langoureux, un air de fin de belle journée, tout chargé d'un parfum de rangées en fleurs. Je regarde Madame de Lérins assise à mon côté. Une brise légère agite faiblement le voile de gaze qui entoure son chapeau de grosse paille bleue. Elle est très gaie aujourd'hui. Elle plaisante et rit, s'amuse de la cour comique fait Gernon à Madame Bruvane. C'est ainsi que nous atteignons Montréal. La route débouche sur la principale place de la petite ville et soudain on se trouve en face de la cathédrale. Ses lourdes portes de bronze étaient ouvertes et nous avons pénétré dans l'immense vaisseau. Des mosaïques en couvrent les parois et sa concavité forme une espèce de grotte merveilleuse, à la fois étincelante et sombre, toute luisante de vieux or, hantait le personnage hiératique. De temps en temps, Madame de Lérins s'en désigna au bout de son ombrelle. La vaste nef est à peu près déserte. Parfois, on y distingue l'écho d'un pas, d'une voix, puis le solitaire silence retombe. Madame de Lérins marche devant moi. Tout à coup, je la vois se diriger vers une petite porte pratiquée dans l'épaisseur du mur. Elle la pousse de son doigt ganté avec une exclamation de surprise. Il n'est pas grand, ce cloître où nous venons de pénétrer, mais il est exquis de proportion et d'un pittoresque barbare et délicieux, avec ses colonnes sarrasines incrustées de parcelles de mosaïque. Dans le carré que forment les galeries, des fleurs croissent en un désordre charmant. Quelques piliers sont élégamment enguirlandés. Un angle du préau, au milieu d'une vasque de marbre, s'élève isolé, inutile, paradoxal, une colonne torse. Mais ne soutient rien. Pourquoi est-elle là? Dans la vasque tarie figure tel jet de l'eau absente, elle a je ne sais quoi d'énigmatique, que nous serions restés longtemps à contempler si nous nous étions aperçus que le cloître donnait sur une terrasse, une étroite terrasse dont on découvre une vue admirable sur la Conque d'Or, sur Palerme, sur la mer. Ah, qu'elle était belle, cette heure de paix, déjà presque crépusculaire, de lumière affaiblie et de parfums lointains. Mais j'étais insensible à son charme, indifférent à ses attraits. Que me faisaient ces jardins étagés, cette plaine harmonieuse et odorante, cette ville et cette mer limpide et bleue qui bornait l'horizon? Une seule pensée m'occupait tout entier. Un être était auprès de moi, en qui se concentraient tous mes désirs, vers qui allaient toutes mes inspirations et tous mes rêves. Et cet être qui était là, à mes côtés, visible, tangible, peut-être ne serait-il jamais à moi. Jamais je n'entendrai sa voix prononcer mon nom comme celui d'un étranger. Jamais ma bouche ne toucherait ses lèvres, jamais mes mains n'étreindraient son corps. Elle ne me laisserait d'elle qu'une image fugitive parmi tant d'images qui déjà se sont enfuies. Et les jours passeraient, comme avait passé cette journée. Une pesante tristesse m'accablait. Je m'étais accoudé au parapet de la terrasse, en proie à une indicible mélancolie, et je sentais des larmes me monter aux yeux. J'entendais derrière moi le pas souple de Madame de Lérins qui s'approchait. Je n'osais me retourner quand je sentis une main se poser sur mon épaule. Je tressaillis et je levai la tête. Elle parut surprise du trouble de mon visage. Alors je sentis soudain que le moment était venu de parler. J'avais pris la main de Madame de Lérins et, tout bas, comme un reproche, comme une prière, je répétais ce nom, Laure, oh Laure. Elle n'avait pas retiré sa main, et doucement, elle m'attirait vers un banc qui se trouvait derrière nous. Quand nous fûmes assis, elle fit glisser ses doigts d'entre les miens pour arranger le voile de son chapeau. Déjà, toute ma hardiesse momentanée était tombée, et je demeurais silencieux, le cœur battant, la gorge serrée. Ce fut elle qui parla la première. « Alors, remettez-vous, mon pauvre Delbray. Je sais bien que vous m'aimez, mais ce n'est pas une raison pour être triste. Écoutez-moi plutôt au lieu de faire cette tête de victime. Je suis bien aise que nous abordions ce sujet, d'autant plus que je n'ai rien d'affreux à vous dire. » Elle s'était inclinée pour cueillir un petit œillet poussé dans le sable de l'allée. Le poids qui l'oppressait abandonna ma poitrine. Le paysage, qui avait presque disparu, renaissait à mes yeux. De nouveau, j'eus l'impression de la douceur de l'air, de la présence des choses. De nouveau, je perçus l'odeur des fleurs. Et Madame de Lérins reprit. « Oui, mon ami, je sais que vous m'aimez. Je crois même que vous avez commencé à m'aimer du jour où vous m'avez rencontré chez Madame Bruvan. Dès que je vous ai connu, j'ai constaté que je ne vous étais pas indifférente. Je vous avoue que pendant assez longtemps, j'ai supposé que je vous inspirais seulement de la sympathie et de l'amitié. Or, c'était justement ce même sentiment que j'éprouvais pour vous. » Elle s'arrêta un instant de parler et lança par-dessus le parapet l'œillet qu'elle tenait à la main. Elle continua. « Je m'aperçois maintenant, et je me rends compte déjà depuis quelque temps, que votre amitié était de l'amour. Oh, ne vous alarmez pas, cette idée ne m'est nullement désagréable. Au contraire, et je voudrais pouvoir vous répondre quelque chose que vous attendez de moi sans doute. Oui, je voudrais pouvoir vous dire, « Mon cher Delbray, vous m'aimez, eh bien moi je vous aime aussi. » Malheureusement, cela, mon ami, je ne vous le dirai pas. » Elle s'exprimait avec netteté et fermeté. Son petit visage énergique et délicat se crispa légèrement. Elle fixa sur le mien un franc et clair regard. « Non, Julien, quand je vous vois, je n'éprouve pas pour vous ce grand sentiment que l'on nomme l'amour. De cela, j'en suis tout à fait sûr. J'ai longuement réfléchi. Je me suis bien examiné. J'ai trop le goût de la franchise, de l'amitié, pour vous mentir, pour vous donner de fausses assurances. Non, je n'éprouve pas d'amour pour vous, au sens romanesque du mot. C'est ainsi, je n'y puis rien. Mais il faut en prendre votre parti. » Je souffrais cruellement. De nouveau, je sentis ma poitrine pesante, ma gorge serrée, mes yeux humides. Ma détresse était infinie et s'accordait avec la mélancolie des lieux. Cette étroite et longue terrasse, avec son parapet de vieilles pierres, avec son parfum de fleurs tristes, m'apparaissait comme le tombeau de mon amour et de mon espoir, et je murmurais, la tête basse, « Oh, Laure, Laure !» Elle me répondit par un rire. J'aurais dû souffrir davantage, mais il me semblait que ce rire n'avait rien d'offensant ni d'hostile. « Mais ne vous désolez donc pas ainsi, mon pauvre Delbray. Laissez-moi finir. Voilà bien les hommes. Quand ils aiment et qu'ils vous ont fait l'honneur de vous le dire, ils ne peuvent pas supporter que l'on ne retombe pas tout de suite dans les bras. » « Attendez donc un peu avant de vous lamenter. Si je ne vous aime pas, au sens où vous l'entendez, rien ne prouve que je ne change pas d'avis un jour. » Elle réprima d'un geste le cri de joie qui allait m'échapper, et reprit gravement. « L'amour, mon ami, est un sentiment singulier, et ses façons sont diverses. Tantôt il naît avec toutes ses forces, tantôt il ne les acquiert que lentement. Pourquoi, Julien, la sympathie que j'ai pour vous ne deviendrait-elle pas de l'amour véritable? Ne comprenez-vous pas que c'est en cette pensée que j'ai accepté l'invitation de Madame Bruvan, que j'ai souhaité de vivre auprès de vous dans une intimité quotidienne? N'est-ce pas parce que mon amitié pour vous m'a paru susceptible de devenir un sentiment plus vif que j'ai voulu vous donner des chances d'opérer en moi cette transformation? À vous, Julien, de me gagner peu à peu à votre cause. Ne suis-je pas déjà disposé en votre faveur par l'amour que vous m'avouez? Oui, je sais que vous m'aimez, mais je veux savoir aussi comment vous m'aimez, et si je pourrais réaliser, moi, votre désir. Nous avons tous deux quelque chose à apprendre de nous-mêmes. Tentons sagement l'expérience. Si elle est favorable, si elle se détermine en ce que vous souhaitez, je me donnerai à vous joyeusement et sans me marchander. Je ne vous importunerai pas de conditions et de délais. Je ne vous proposerai pas le traquenard du mariage et je serai votre maîtresse autant que vous voudrez. Mais nous ne nous connaissons pas, Julien. Apprenons à nous connaître. Elle s'arrêta un instant, puis me tendit la main en se levant du banc. Mais tout cela, j'aurais pu le faire sans vous en prévenir. J'aurais pu vous étudier en secret, vous observer en silence. Mais j'aime les situations franches. Et puis je vous voyais malheureux. Et maintenant partons. Il sera tard quand nous arriverons au yacht. J'ai longuement baisé la main de Laure, et durant tout le trajet, je l'ai tenue entre les miennes. Ce soir, la mer est calme. Palerme décroît derrière nous dans la nuit qu'elle illumine de ses feux scintillants. Je pense au long faubourg, à la bonté de Montréal, à sa cathédrale, à son cloître étroit bordé de colonnes sarrasines, à sa terrasse fleurie et crépusculaire. L'amphisben a levé l'ancre après le dîner. De l'avant du yacht, je regardais la manœuvre. La longue chaîne s'enroulait au cabestan à vapeur et rentrait peu à peu dans les écubiers. L'ancre est apparue énorme, ruisselante, couverte d'algues suspendues. J'ai vu en elle un symbole d'espérance. Maintenant le navire file rapidement sur les flots sombres aux ondulations insensibles. Je suis revenu au salon où tout le monde est réuni. Madame Bruvan et Gernon jouant aux échecs, Monsieur Subagny, sous le regard admiratif de sa femme, prend la pose. Antoine fume son cigare. Laure est étendue sur une chaise longue. À quoi pense-t-elle? Songe-t-elle, elle aussi, au petit cloître sarrasin et à la terrasse assombrie? Qu'attend-elle de moi maintenant? Que vais-je lui dire? Mes pauvres paroles seront impuissantes à lui exprimer mon amour. Il me faudrait une éloquence que je n'ai pas. Comment lui faire comprendre la profondeur du sentiment que j'éprouve pour elle? Comment lui traduire les songes qu'elle me suggère, la convaincre de la place qu'elle occupe dans ma vie? Ah, heureux ceux qui savent donner une forme à leurs pensées, qui ont à leur disposition la musique des couleurs et l'harmonie des lignes. Comme j'envie les doigts agiles d'un Jacques de Bergy. Mais moi, hélas, je ne suis ni peintre, ni sculpteur, ni poète, ni musicien. Je n'ai même pas à ma disposition l'humble flûte dont jouait le vieux Feller sous les fenêtres de sa comtesse polonaise.